7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines, bien sûr. Aujourd'hui, nous laissons la parole à des jeunes qui ont décidé de ne pas suivre tout à fait la route qui leur a été tracée. Dans le studio de RFI, j'ai le plaisir de recevoir Louis de Gouillon-Matignon, 22 ans, étudiant en droit. Son destin a basculé avec le jazz manouche. Il a créé l'association Défense de la culture tzigane et il raconte son engagement qui va bien au-delà de la guitare et de la musique. Dans Jean du Voyage, je vous aime, Bastien Hiverneau devrait nous rejoindre. Il est dans le RER à l'heure actuelle, la trentaine, il est ingénieur en aéronautique. Il a fondé Happy Families, premier espace d'aide aux famille à Paris. Corinne Varroquier, normalienne agrégée d'anglais Sciences Po, cofondatrice de United Donations, une plateforme de financement participatif. Et puis on sera également en ligne avec Alexandre Castel, 28 ans, ingénieur des mines, fondateur de Station Energy, c'est une société éthique qui propose de l'énergie solaire aux villageois privés d'électricité. Il est en ce moment même à Abidjan. Voilà, ils vont nous raconter leur histoire, leur choix surtout de vie, leur choix professionnel. Et leur regard peut-être sur la crise et un monde rempli d'incertitudes. C'est la génération inattendue et c'est tout de suite chez 7 milliards de voisins. On va commencer avec vous, Louis de Gouillon-Matignon, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez 22 ans, c'est bien ça, hein ?
Oui, c'est ça.
Vous publiez votre premier livre, un petit livre court, très personnel, pour raconter un engagement assez inattendu, en plus à votre âge, hein, vous êtes étudiant à la Sorbonne, vous venez d'un milieu, bon, on va le dire, hein, vous êtes petit-fils de comte, vous venez de l'aristocratie française. Comment vous vous êtes retrouvé finalement en plein milieu manouche, à passer vos vacances dans des caravanes?
Je suis tombé amoureux d'un peuple grâce à la musique. En fait, quand j'ai 15-16 ans, je commence à faire de la guitare, je découvre une vidéo de Django Reinhardt et petit à petit, je vais dans les festivals où ça joue cette musique et je rencontre des gens du voyage, c'est-à-dire tous les Français qui ont un mode de vie itinérant. On les appelle manouches en France, parfois on les appelle gitans. Et je vais commencer à nouer des amitiés, commencer à me rapprocher d'eux et commencer à les vivre avec eux.
Mais c'était quoi au départ? Parce que vous étiez d'abord pensionnaire dans les pensionnats britanniques, ensuite dans des pensions très chics en France. C'était quoi le sens de la provoque au départ?
Non,
c'était... Ne serait-ce que...
C'est un peu bizarre, mais c'était le devoir d'aller vers l'autre et surtout d'aller vers les gens qui étaient en souffrance un petit peu. Les gens du voyage étaient en souffrance, ils étaient discriminés et je sentais que j'étais à ma place, quoi, en fait. J'avais envie d'aller les voir pour la musique et aussi pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils étaient discriminés et comment est-ce qu'ils étaient arrivés là.
Vous l'avez pas appris dans votre éducation qu'il y avait des gens complètement qui vivaient en marge de la société française?
Non, bien sûr, c'est quelque chose qui était vraiment ambiant. On le voyait de plus en plus dans les médias. Ça a commencé notamment avec des discours. Je me rappelle du discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy en 2010, qui avait fait un amalgame entre les populations roms, qui sont des populations roumaines et bulgares migrantes européennes, et les gens du voyage, qui sont nos concitoyens français itinérants. Et après, grâce à la guitare...
Les gens du voyage qui sont des Français, qui sont près de combien en France?
À peu près 350 000 à 400 000 personnes.
Ouais. Alors, c'est votre cause, c'est eux. Hein,
a priori, c'est... Eux, aujourd'hui, ce sont aussi les Roms, dans la mesure où c'est une vision européenne. Et voilà, je me présente aux élections européennes cette année en région Île-de-France en qualité de tête de liste.
Ça y est, vous venez de le décider, ça.
Ouais, c'est quelque chose que j'ai décidé il y a très peu de temps avec une bande d'amis. On s'est dit, on en a marre de la droite, on en a marre de la gauche. On veut créer une Europe fédérale, on veut créer une Europe sociale, solidaire et unie. Et ce sont les Roms qui m'ont permis de comprendre ça. Ce sont les Roms qui m'ont permis de comprendre que interétatiquement, il y avait des disparités. Les pays n'appliquaient pas les mêmes droits de l'homme en fonction des différentes populations qu'il y avait sur leur territoire. Et c'est notre devoir à nous, la France, qui, dans l'histoire, a su montrer ses valeurs, d'imposer ses valeurs, et ceci grâce au contrat européen.
Alors, un gadget en caravane. Gadget, ça veut dire...
C'est un nom de tzigane, voilà.
Voilà. Oui, mais ça veut dire c'est celui qui ne l'est pas, justement.
C'est exactement, c'est celui qui ne l'est pas, c'est celui qui n'est pas issu de la communauté.
Ouais,
exactement. Ouais. Ouais. Alors je reviens sur quelque chose que vous avez dit, Emmanuel. Vous avez dit le premier livre que j'ai sorti. Alors c'est pas tout à fait exact parce
que il y a eu le dictionnaire.
J'ai sorti un dictionnaire. C'était important de pouvoir sauvegarder la langue. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui les gens du voyage, comme vous l'avez dit, qui sont 400 000 en France, qui sont des citoyens français qui ont un mode de vie itinérant, ont une culture aussi, une culture très riche, une culture très noble. Ils ont notamment une langue et cette langue a tendance à s'affadir aujourd'hui et à perdre en force et elle n'est que de moins en moins transmise. transmise. Mmh. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu écrire un dictionnaire. Alors ce dictionnaire, c'est un dictionnaire que j'ai édité aux éditions L'Harmattan et qui est un recueil de tous les mots et expressions qui existent dans la langue des tziganes ouest européens, ce qu'on appelle donc les manouches. Et c'est un dictionnaire que j'ai écrit pour pouvoir vraiment sauvegarder la langue. Et aujourd'hui, je me présente aux élections européennes aussi avec cette optique et cette dynamique de préserver les cultures et de les promouvoir. Ouais.
Mais vous êtes quand même assez atypique, hein, Louis de Gouillon-Matignon, parce que en gros, pendant vos années d'adolescence, hein, de 16 ans à 22 ans, pendant que vos amis allaient en boîte de nuit pendant les vacances, vous passiez vos vacances dans les caravanes, dans les campements de forains, sur les terrains vagues, qui sont d'ailleurs pas toujours très bien achalandés en électricité, en eau, etc. Hein, ça fait partie des problèmes quotidiens
des
manouches. Ouais. Et avec un petit carnet en train de remplir des pages et des pages de langue romanie pour publier un dictionnaire.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Mais c'est quand même assez...
J'ai eu de la chance. En fait, c'est deux choses. Il faut savoir que l'engagement... En général, lorsqu'on est jeune, l'engagement, c'est la résultante, c'est la composante de différents facteurs. Moi, j'ai pas eu beaucoup de chance quand j'étais jeune. J'ai vécu une enfance assez difficile. La pension, ça a été assez difficile, en réalité. Lorsque l'on a 12 ans et qu'on se retrouve en Angleterre, loin de chez ses parents, et qu'on ne peut que pas les voir ou que trop peu.
C'était une tradition dans votre famille d'aristocrates?
Ouais, c'était une tradition. Bah, vous savez, dans beaucoup de familles en France, jusqu'à très récemment, les enfants partaient en pension, ou sinon les enfants faisaient leur service militaire. Et c'était comme ça, une espèce de cadre qui était offert aux jeunes.
Dans certains milieux, on va dire.
Ouais. Qui puissent se former, qui puissent un petit peu s'indépendantiser. Alors moi, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'aller vivre en Angleterre pour pouvoir aussi apprendre la langue, l'anglais, et pour pouvoir m'immerger au sein d'une culture nouvelle. Ça a été assez dur. Je pouvais voir que très peu mes parents. C'était parfois un petit peu compliqué, vraiment. Hein. Et c'est la raison pour laquelle je me suis donné une force.
On a presque l'impression que vous avez retrouvé en fait une autre famille chez les manouches. Hein, quand vous passez vos étés dans les caravanes, non?
Ouais, Emmanuel, c'est ce que c'est exactement. Oui. Vous l'avez bien résumé. En fait, les gens du voyage, c'est ma deuxième famille.
Alors vous êtes, je le disais, vous êtes petit-fils de comte, passé par les pensionnats anglais et français, et vous jouez quand même beaucoup maintenant sur cette image inattendue dans les médias.
Bien sûr.
Vous savez en jouer. Oui, ça, vous le reconnaissez au moins.
Non, mais bien sûr, mais ça sert. C'est, vous savez, il faut savoir se servir, il faut savoir utiliser les atouts qu'on a. Et il faut pouvoir les mettre à service, au profit de ceux qui n'en ont pas. Les gens du voyage n'ont que trop peu de présence médiatique. Moi, grâce à ma personnalité un peu atypique, c'est vrai que ça fait marrer tout le monde de voir un Gouillon-Matignon qui parle des gens du voyage, qui parle des Roms, qu'est-ce qu'il fait là. Lui, il a vraiment rien à faire là. Mm. Mais voilà, moi je me sers de cette qualité pour pouvoir servir les gens du voyage.
Ça vous perturbe pas, en tout cas, d'avoir y compris quelques ennemis d'ailleurs, en tout cas d'agacer parfois.
Bien sûr, hein, mais écoutez, vous savez, quand vous faites quelque chose, vous avez toujours des ennemis. Ça, c'est la grande leçon de la vie.
Bon, en tout cas, vous êtes arrivé chez les manouches grâce au jazz manouche. Vous êtes plutôt un puriste, hein, vous, en matière de jazz, non? Jazz manouche.
Ouais, j'aime bien le jazz manouche. J'aime bien aussi le jazz américain. Ouais. J'aime bien le bebop, j'aime bien le free, j'aime bien la fusion, j'aime un peu tous les styles.
Et
ben
là, je vous offre quand même un petit morceau d'électro manouche. Gouillon-Matignon, mais je vais presque vous laisser le soin de désannoncer. Vous les avez reconnus ou pas? C'est du jazz manouche électro, Canouche Orchestra.
Ouais,
vous les connaissez,
bien sûr,
hein?
Bien sûr. J'hésitais entre Caravan Palace ou Canouche, mais voilà.
C'est ça. Et ben c'est Canouche Orchestra, électro Canouche Orchestra. Et le titre, c'est Tabada Bada Bada. Voilà. C'est pas du romani, ça, non?
Non, c'est pas du romani.
Je voudrais qu'on passe à votre parcours à vous maintenant, Corinne Varroquier. Vous êtes, alors vous avez la trentaine, hein. Oui. Vous êtes cofondatrice présidente de United Donations. Alors c'est un jeu de mots avec United Nations, c'est ça?
Tout à fait.
Un pied de nez aussi peut-être quelque part?
Oui, alors ben, disons que c'est plus un parcours en fait qui m'a amené justement à, par mon expérience professionnelle à choisir ce nom. Donc pour un petit peu rejoindre ce que disait Louis, j'ai également un parcours en lien avec l'Angleterre étant donné que je suis moitié anglaise. Et donc j'ai fait un parcours international dans un lycée international en allant également à l'école en Angleterre, en école primaire. Une partie de l'année, pas en internat par contre. Donc voilà, mais donc
et puis ensuite, bah vous êtes passé par les grandes écoles à la française là. Hein,
voilà, mais j'avais toujours ce rêve de
normal sup, agrégation d'anglais, Sciences Po. Voilà.
Oui, et je suis également passée un petit peu aux États-Unis par l'université de Berkeley, donc j'ai eu cette chance de pouvoir voyager et toujours donc avec ce rêve depuis petite en fait des organisations internationales, justement de en imaginant que finalement ces organisations avaient été dotées d'un pouvoir et une capacité de changer le monde de par leur budget, de par leur présence. Et donc, ce rêve, en fait, j'ai pu le réaliser grâce à mes études. Un parcours justement, et je remercie d'ailleurs la France pour les belles études qui nous permettent de faire. Pas besoin d'aller aux États-Unis pour ça. Et donc, quand je suis allée travailler pour une agence des Nations Unies, donc l'UNESCO, et ensuite pour un bailleur de fonds américain au Rwanda, j'ai réalisé cette ambition de faire de l'évaluation de projets, de permettre à des projets d'être financés, de travailler sur des plans stratégiques.
Et vous saviez d'emblée que vous vouliez pas travailler comme salarié classique dans une multinationale avec le CV que vous aviez?
Alors donc justement c'était à ce moment-là que j'ai eu cette prise de conscience d'un décalage en fait entre ce que j'imaginais. Donc la mission de l'UNESCO c'est promouvoir la paix dans l'esprit des hommes. Donc c'est une très belle mission, mais c'est une mission sur du très long terme. Et donc je souhaitais pour ma part travailler de manière beaucoup plus concrète, plus en lien avec les gens, plus dans du quotidien, c'est-à-dire de voir en fait l'impact des financements.
D'emblée vous aviez éliminé le fait de faire de l'argent.
Alors oui, en fait ça, je pense que ça a toujours été quelque chose qui, enfin c'était pas une préoccupation même au moment où j'ai commencé mes études, je pense. Et donc au moment où j'étais justement à l'UNESCO, le but n'était pas de faire de l'argent d'emblée. Enfin heureusement quand même, je pense que peu de personnes qui se lancent dans ce type de carrière sont dans cette optique-là. Mais par contre j'avais ce souhait d'être dans un partage et justement dans travailler dans la solidarité. Ensuite c'était plus une question de trouver la bonne formule, le moyen justement de se sentir utile et chacun à sa manière, c'est-à-dire que l'UNESCO est extrêmement utile, mais c'était juste que ça correspondait pas en fait à mon ambition.
Donc vous avez monté une plateforme de financement participatif, hein, ce qu'on appelle le crowdfunding aujourd'hui, hein, qui est lancé depuis très peu.
Ça fait une année et demie qu'on s'est lancé.
Donc c'est la galère.
Bah, disons qu'en fait ce sont des petites victoires au quotidien, tout comme les porteurs de projets qui sont sur notre plateforme. Donc pour expliquer le principe, en gros le financement participatif à la base c'est tout type de projets en fait sur lesquels qui ont besoin soit de prêts, soit d'investissements, soit de dons pour se réaliser, et donc une communauté de donateurs en général qui se mobilisent via l'internet qui peuvent aider et contribuer au financement des projets. Et donc United Donations se distingue en fait des plateformes de dons dans le sens où traditionnellement le financement participatif permet de financer des projets sur le court terme. Là ce sont des financements sur la durée. Donc en fait, on va combiner l'abonnement classique aux ONG qu'on peut connaître où on donne de l'argent tous les mois avec du financement participatif.
Donc via Internet.
Via Internet, les gens viennent, découvrent les projets et peuvent les financer tous les mois avec des dons. Donc c'est à partir de 6,60 € tous les mois. Donc des petits dons, mais finalement qui sont immenses pour les porteurs de projets qui en sont bénéficiaires.
Alors ce sont des projets, la plupart du temps, quand même très humanitaires, très développement.
Tout à fait. Donc en fait, on a trois projets en Afrique. Donc un à Brazzaville, un projet au Sénégal et un projet au Niger. Et donc, ce sont des projets qui, mais même également des projets en France, mais ce sont des projets qui, grâce à une communauté de donateurs, peuvent faire des réalisations très concrètes et que les donateurs peuvent suivre. Donc, c'est-à-dire que l'engagement que prennent les porteurs de projets, c'est de donner des nouvelles du projet tous les mois ou tous les deux mois via notre blog et également par un reporting qu'on fait tous les ans pour dire concrètement, voilà, avec vos 6,60 €, on a pu réaliser telle action et que les gens se sentent vraiment impliqués et donc partie prenante. Et donc, c'est là où on a voulu se distinguer un petit peu des Nations Unies, des United Nations, c'est les United Nations du peuple, c'est-à-dire que chacun est partie prenante et engagée dans
c'est ça, on a le sentiment tous les deux, là, chacun à votre échelle, hein, que vous avez envie quand même que ça avance, de faire du concret. Vous n'êtes pas tellement dans le brassage des grandes idées, enfin pas seulement en tout cas, hein. Vous avez une soif d'idéal, mais vous avez aussi une soif de résultat, non? Louis de Gouillon-Matignon, vous qui vous dédiez à la cause tzigane en France, je sais pas, par exemple, vous le dites, hein, les tziganes sont très en marge dans la société, ont beaucoup de mal à accéder à l'emploi, des positions professionnelles. Ben, je sais pas, par exemple, le financement participatif, on connaît dans la communauté?
Non, on connaît que trop peu. Alors en fait, on connaît dans la mesure où c'est assez tribal. Vous savez, l'organisation, c'est une organisation clanique. Chaque personne au sein de la communauté a un rôle très particulier. Et lorsque une des personnes de la communauté souffre de quelques maux que ce soit, la communauté aide. Donc en fait, le crowdfunding, ça existe depuis déjà des centaines d'années au sein de la communauté tzigane, pas via Internet. Et c'est moi, je trouve que c'est vraiment intéressant ce genre de démarche. Ça montre deux choses. Ça montre que aujourd'hui, la dynamique économique change de terrain. Que aujourd'hui, on donne peut-être moins des associations, mais peut-être plus à du crowdfunding. On a peut-être l'impression de partager plus et d'être plus dans un projet concret. Et je pense que ce genre de démarches qui feront avancer un petit peu le débat. Et lorsque vous dites, Emmanuel, que nous sommes un petit peu dans une volonté de faire avancer les choses, Corinne et moi-même, bah oui, nous on essaye, je pense, de faire bouger un petit peu le système. Moi j'en ai marre, par exemple, que les gens du voyage soient pas reconnus comme des citoyens français. Ils se font taper dessus toute la journée. À chaque fois qu'ils veulent trouver des endroits pour s'installer, ils peuvent pas. Et je rappelle qu'aujourd'hui, les gens du voyage qui sont nos concitoyens français doivent toujours avoir des documents administratifs particuliers.
Circulation.
Exactement, ouais. Qui sont totalement discriminatoires. Et vous verrez d'ailleurs dans quelques semaines, je vais organiser quelque chose d'assez fort, vous entendrez parler, concernant ces livrets de circulation. C'est une aberration sur le plan juridique, sur le plan légal et enfin sur le plan moral.
Ça,
c'est
la raison pour laquelle... Vous êtes déjà en campagne, là.
Bien sûr, non, mais je trouve ça inacceptable. C'est des Français comme les autres. Ça fait plusieurs générations qui vivent en France, qui travaillent en France, qui participent à la cohésion sociale. Aujourd'hui, l'État ne les reconnaît pas comme des citoyens français. C'est dégueulasse.
Alors, voilà. Justement, alors Louis de Gouillon-Matignon, donc 22 ans, déjà en campagne pour les européennes. Corinne Varocki, vous, avec le crowdfunding, donc cette plateforme de financement participatif que vous avez lancée, qui s'appelle United Donations, c'est aussi pour aider des exclus, finalement, des gens, des projets qui ne parviennent pas à se financer via les banques, comme ça devrait être le cas.
Voilà. Alors justement, ça, c'est aussi un constat. Avant de lancer concrètement cette organisation, j'ai travaillé pour une fondation, en tant que bénévole, d'un grand cabinet de conseil. Et donc, dans le cadre des évaluations de projets, j'ai pu justement observer concrètement le nombre de codes, la quantité de documents en fait qui étaient demandés et qui excluaient de fait des porteurs de projets parfois exceptionnels, mais qui ne bénéficiaient pas du réseau, de l'appui de telle ou telle personne et surtout qui n'avaient tout simplement pas une capacité de scanner correctement de manière propre des documents parce qu'ils se trouvent dans des pays où c'est pas nécessairement facile de faire ça. Et donc c'était également ça qu'on a souhaité faire, c'est-à-dire créer une structure qui permettent à chacun de mobiliser sa communauté, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le financement participatif, c'est une question de cercle. Donc c'est d'abord le premier et le deuxième cercle, donc les proches, la famille, mais ensuite le deuxième cercle, les amis d'amis, les connaissances qui vont se mobiliser en fait autour du projet pour l'aider en fait à trouver ensuite éventuellement un troisième cercle de donateurs.
C'est ça. Donc il faut faire attention, il y a pas de magie. Ça permet d'élargir les cercles,
tout
hein,
à fait.
Bien évidemment.
Et donc il y a pas de magie, c'est-à-dire qu'en effet on parle encore de communauté. Ce que dit Louis, c'est justement cette solidarité. En fait, elle débute quand même toujours autour justement d'un groupe de personnes qui croient dans la cause. Et donc pour nous, ça a été le moyen justement d'aider ces porteurs de projets, mais également même des structures comme le SAMU Social International qui a lancé en fait un projet avec United Donations. Même eux, en fait, voient le potentiel de ça, c'est-à-dire qu'ils ont accès à des financements, mais ils n'en ont pas nécessairement assez parce qu'en fait, souvent, ils travaillent aussi en mode service. Et en fait, malheureusement, les appels à projets, en général, ce sont des appels à projets issus de la coopération internationale où il y a un début et une fin. Or, au Sénégal, pour héberger des enfants des rues, il n'y a pas un début et une fin, c'est du service public et donc il faut des dons en permanence.
C'est incroyable parce que quand on vous entend parler tous les deux, chacun dans votre... Alors là, vous êtes vraiment dans votre destin, vous êtes complètement passionnés, mais comment réagit votre entourage à tous les deux? On vous prend un peu encore pour des illuminés ou on vous fait complètement 100% confiance en quelques secondes avant qu'on lance le flash?
Au départ, c'était un peu compliqué pour ma famille parce que c'était un peu exotique.
Et, c'est ça, vous l'admettez.
Et après, j'ai réussi à faire comprendre à ma famille que la noblesse, c'est ça, c'est servir les autres et c'est servir ceux qui sont dans le besoin.
Et vous, Corinne Barroquet?
Alors,
en deux secondes.
Non, je pense, j'ai peut-être déstabilisé un temps mon entourage, mais tout le monde comprend.
Vous les avez rassurés depuis.
Et pour le coup, j'ai aussi mobilisé toute ma communauté, donc ils n'ont pas vraiment
ils ont pas eu le choix, c'est ce que j'allais dire, de vous suivre. Il faut dire que vous êtes assez convaincants tous les deux. Vous restez avec nous, hein. Corinne Barroquet, Louis de Gouillon-Matignon, on attend Bastien Hiverneau pour un autre projet. On se retrouve dans 3 minutes après le flash.